Matin Première, 6h-8h30.
Et toute cette semaine, nous passons donc en revue à cette heure-ci les événements qui ont marqué cette année 2021 dans différents domaines. Ce matin, on revient sur l'année politique, une année plutôt mouvementée. Bonjour Baptiste Tupin.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous avez raconté la politique belge à l'ère de la Vivaldi dans votre podcast Les 4 saisons, toute cette année avec Imad Messoudi. Et c'est encore au rythme de votre podcast que vous nous proposez donc cette rétrospective politique 2021.
Oui, une année politique qui se termine en fait un peu comme elle a commencé, sur un grand point d'interrogation. Il y a un an tout juste, le 28 décembre 2020, au cœur de l'hiver, on injectait la toute première dose de vaccin en Belgique. Pour le politique, cette campagne de vaccination devait apparaître comme une reprise en main de la situation pandémique, un espoir après deux vagues meurtrières en Belgique. Voici ce que nous diffusions au tout début de l'année 2021.
Le voici, le premier vaccin bruxellois.
Si on te pique, on écoute, ça ne fait pas du bien. Hein.
C'est le plus beau cadeau de Noël que nous pouvions recevoir.
On n'a rien sans rien.
Voilà.
Bye bye 2020, vive 2021.
Bonne année à tout le monde.
Sauf qu'un invité surprise a décidé de squatter notre hiver.
D'inquiétants mutants, les variants britanniques et sud-africains du Covid-19 sont bel et bien sur notre territoire.
Le 31 décembre, on était dans la merde.
Les envahisseurs.
Le 1er janvier, on est dans la merde, il n'y a rien de changé.
Voilà Sophie, c'est dit un peu crûment par cet homme interrogé au début de l'année 2021, mais ça nous parle.
Tout à fait.
Et un an plus tard, on en est toujours là. À l'époque, on parlait du variant indien ou du variant britannique. Désormais, il s'appelle Omicron. Et cette évolution permanente du virus, le fait que le vaccin n'ait pas suffi à endiguer l'épidémie, les allers-retours politiques pour y faire face, tout cela est venu semer le doute sur la stratégie de lutte contre le virus. Dans cette stratégie, on a vu s'affronter deux grandes lignes politiques lors des 18 comités de concertation de 2021, il y en a bien eu 18. D'une part, une stratégie qui s'appuie sur les avis d'experts, le point de vue scientifique, où le politique s'efface au profit de ses experts. D'autre part, une ligne plus politique s'appuyant sur des intérêts plus partisans, sur les intérêts des grands secteurs d'activité du pays. Et cette balance entre deux catégories de risques, le risque épidémiologique d'un côté, les risques économiques, sociaux de l'autre, a été le grand dilemme politique de l'année. Et comme très souvent en Belgique, la solution s'est dessinée à travers la recherche de compromis politiques, mais ces compromis ne tiennent pas toujours compte des impératifs sanitaires. Cela a souvent mené à des décisions incohérentes, incompréhensibles pour la population.
Et on l'a encore vu lors du dernier comité de concertation, Baptiste.
Ah oui, tout à fait. Et ce phénomène a sapé peu à peu la confiance accordée aux décideurs. Cette méfiance n'a fait que croître tout au long de l'année politique. Les actions de désobéissance civile des derniers jours dans le secteur culturel en sont une manifestation supplémentaire. L'année aura été marquée par toutes ces manifestations contre les mesures sanitaires. Souvenez-vous des booms organisés au Bois de la Cambre et se terminant en affrontement entre manifestants et autorités au printemps. Les manifestations de cet automne. Souvenez-vous aussi de cette incroyable cavale, celle de Jürgen Konings, militaire sympathisant d'extrême droite, soupçonné d'avoir voulu s'en prendre au virologue Mark Van Ranst, lorsque la défiance envers les autorités et le discours scientifique a viré à l'extrémisme violent. Voici ce que nous diffusions à la fin du printemps. Il tient la Belgique en haleine depuis près de 2 semaines.
En ce moment, les forces de l'ordre traquent donc un individu qui serait lourdement armé. Il s'agit d'un ancien militaire.
Des moyens de recherche rarement déployés.
Le terrain est accidenté, le terrain il est compliqué.
Le parc national des Hoge-Kempen mesure près de 12 000 hectares.
Un hélicoptère est envoyé sur place, des dizaines de policiers sont déployés.
Les forces de l'ordre, unités spéciales lourdement armées, mais aussi des militaires sont prêts à intervenir.
Un profil atypique.
Jürgen Konings est militaire depuis 1992.
Voici le visage de l'homme le plus recherché du moment.
Jusqu'en 2019, il a mené une carrière sans histoire comme fusilier et sniper.
Jürgen Konings, 46 ans, militaire, connu des autorités comme étant un extrémiste de droite.
Un mobile inédit.
Eh bien oui, c'est Mark Van Ranst, ce virologue très en vue durant cette crise sanitaire.
Une défense ébranlée.
Dans toute cette affaire, nous avons commis des erreurs, c'est indiscutable. Et nous le reconnaissons très humblement.
la cavale de Jürgen Konings remue la Belgique au sens propre.
Évidemment, il n'est pas question de laisser un centimètre carré non fouillé.
Comme au sens figuré.
Nous ne pouvons pas tolérer ceci au cœur de notre société et certainement pas tolérer ceci au cœur de nos services de sécurité.
L'histoire de Jürgen Konings est finalement celle de la place qu'occupe l'extrême droite dans certaines structures de l'État, la défense, la police. C'est en tout cas la question qui s'est finalement imposée suite aux déclarations de Serge Lipsic, le président du comité R, chargé de la surveillance des services de renseignement, affirmé au mois d'octobre que certaines strates de l'État favorisaient l'extrême droite. L'homme a été sommé de s'en expliquer en commission à la Chambre.
Et puis cette affaire, Baptiste, a également secoué la Belgique en raison des soutiens dont a bénéficié Jürgen Konings.
Effectivement, soutien énorme à travers des groupes Facebook notamment, et ce soutien a démontré, s'il le fallait encore, que la tentation des extrêmes s'est renforcée en 2021. Sondage après sondage, le Vlaams Belang reste au sommet des intentions de vote en Flandre, le PTB lui progresse en Wallonie et à Bruxelles par rapport à son résultat de 2019. Une remontée des extrêmes qui doit interroger la stratégie de la Vivaldi, cette majorité qui a vu le jour, avec l'objectif notamment de démontrer que le vote pour les partis extrémiste et singulièrement l'extrême droite en Flandre était un vote inutile. Aujourd'hui, le Vlaams Belang tente 24% des électeurs sondés, un électeur sur quatre en Flandre.
Autre chapitre, l'été politique qui a également été marqué par le drame des inondations.
Oui, évidemment. Ouais. L'été 2021 qui marquera à jamais la Wallonie. Le bilan dramatique des inondations mènera à la mise en place d'une commission d'enquête au Parlement wallon. Les travaux sont toujours en cours. Cette commission parlementaire tente de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Elle doit voir comment éviter de pareils drames à l'avenir et comment reconstruire les vallées sinistrées.
Une reconstruction qui demandera également des moyens colossaux.
Oui, une partie des moyens dédiés au plan de relance wallon sera finalement consacré à la reconstruction. La Wallonie a d'ailleurs dû mettre la main au portefeuille, non seulement pour les inondations, mais aussi pour compenser les pertes engendrées par la crise sanitaire. Le déficit budgétaire wallon dépasse les 4 milliards d'euros. L'agence de notation Moody's a dégradé la note de la Wallonie au début du mois de décembre. Les conséquences budgétaires des catastrophes de 2021, elles sont donc énormes.
Ouais, tout à fait, mais la Wallonie n'est pas la seule entité à connaître des problèmes budgétaires cette année.
Ah non, pas du tout. Les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont dans le rouge. Le déficit structurel se creuse. Au fédéral, l'addition des mesures d'aide financées est salée. Toutes les dettes ont gonflé. Mais paradoxalement, l'année 2021, où la priorité a été accordée à la relance, a plutôt été une année d'insouciance budgétaire. Avec des taux d'intérêt très bas, le gouvernement n'a pas eu de mal à se financer avantageusement sur les marchés financiers. Les moyens injectés par les différents niveaux de pouvoir de l'Europe jusqu'aux régions en guise d'investissement, ces moyens sont gigantesques. Mais ces investissements apporteront-ils la relance économique escomptée ou faudra-t-il en payer les conséquences pendant des décennies? Voici ce que nous diffusions à ce sujet cet été.
Cet été ne sera pas encore un été normal.
C'est Sigal qui annonce l'été.
Mais nous pouvons vraiment envisager un merveilleux été.
La fin des efforts et de la grisaille.
Un été un peu plus léger.
Pour vivre avec une plus grande sérénité.
Parce que la population a fait évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices.
C'est Sigal qui nous prédisent le retour de la consommation, de la croissance.
Les économies des pays de la zone euro qui vont repasser dans le vert.
We have 750 billion euros.
Celle qui invite à investir à coups de milliards.
Bonsoir Thomas Dermine.
On doit investir dans l'infrastructure de demain.
Avec confiance dans le futur.
Je dis qu'investir dans le social, ce ne sont pas des dépenses, c'est de l'investissement et c'est parier sur l'avenir.
Mais on sait tous depuis notre enfance...
La cigale ayant chanté tout l'été...
Que lorsque chantent les cigales, les fourmis ne sont jamais bien loin.
Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine.
Celle qui rappelle que le pays met la main au portefeuille depuis plus d'un an pour aider les secteurs en détresse.
Il va falloir discuter de comment est-ce qu'on remet les finances publiques sur une trajectoire soutenable.
Les fourmis qui gardent un œil sur le taux d'endettement record de la Belgique.
115% du PIB.
La secrétaire d'État au budget met déjà en garde.
On a dépensé beaucoup, mais maintenant on doit commencer à veiller qu'on ne dépense pas de trop.
La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut.
On avait oublié ce chant des cigales, Baptiste.
Oui, il est bien loin. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ces cigales, elles danseront dès l'année prochaine. En tout cas, la secrétaire d'État au budget qu'on vient d'entendre ici a terminé le débat budgétaire à la Chambre la semaine dernière en annonçant que le déficit budgétaire fédéral atteignait 16,6 milliards d'euros, 3,2% du PIB. 2022 sera une année charnière pour le budget. Eva de Blecker annonce une attention accrue sur l'assainissement des finances publiques. La volonté est donc de faire des économies pour revenir vers un déficit plus faible, sans pour autant casser la relance économique. C'est tout le défi.
Un difficile équilibre à trouver, en effet.
Oui, d'autant plus que l'inflation semble s'installer maintenant dans la durée. L'augmentation des prix inquiète. Pour le citoyen, c'est une perte de pouvoir d'achat. Regardez l'augmentation des prix de l'énergie, par exemple. Pour les entreprises belges, c'est un risque de perte de compétitivité si la Belgique ne parvient pas à restreindre cette hausse des prix. Pour les gouvernements très endettés, cette inflation suscite la crainte de voir les taux d'intérêt remonter et alourdir donc à terme la charge d'intérêt de la dette. L'inflation sera donc très surveillée l'année prochaine.
Alors, vous parlez du prix de l'énergie, la transition est toute trouvée, Baptiste, pour évoquer évidemment le dossier politique aussi de cette fin d'année, la sortie du nucléaire.
Oui, on ne va pas revenir sur tous les détails de ce dossier très compliqué. Si on veut aborder ce dossier, c'est parce qu'il est symptomatique de la difficulté, voire de l'impossibilité de trouver sereinement un compromis parmi les partenaires de la majorité fédérale, dans laquelle il arrive trop régulièrement qu'un des membres affiche sa volonté de revenir sur un des termes de l'accord de gouvernement. Le MR dans le cas de la sortie du nucléaire, mais on a également vu le PS faire marche arrière dans la discussion autour des sanctions dans le cas de la vaccination obligatoire des soignants, par exemple.
Oui, le gouvernement fédéral n'est d'ailleurs pas le seul gouvernement où se sont manifestées donc de telles difficultés cette année, Baptiste.
Effectivement, les tensions autour du décret pour une fiscalité plus juste au début du mois de décembre ont fragilisé l'unité du gouvernement wallon. À Bruxelles, la majorité s'est disputée sur la question de la laïcité cet été, avec le dossier du port du voile à la STIB, autour de l'ordonnance taxi cet automne. Il ne s'agit là que de quelques exemples. On pourrait revenir aussi sur l'incapacité de trouver un accord climat entre les différents gouvernements du pays à l'automne, ou tout récemment sur le volte-face d'écolo par rapport à la décision de fermer le secteur culturel, comme si finalement la concurrence électorale primait sur l'efficacité gouvernementale. Cela nourrit un sentiment d'inconsistance, un sentiment de campagne électorale permanente qui peut saper cette confiance dont on parlait au début de cette rétrospective.
Merci Baptiste Tupin, d'être revenu donc sur les grands enjeux politiques de cette année écoulée. Ils étaient nombreux, mais de quoi peut-être mieux comprendre aussi ceux qui s'annoncent évidemment pour 2022. Vous écoutez La Première, il est 8h.